Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 1. C'était par un soir de l'été finissant, avant que le 19e siècle eût atteint sa 30e année. Sur la route qui mène au gros bourg de Weydon Priors, dans le Haut Wessex, marchaient un jeune homme et une femme qui portaient un enfant sur les bras. Leur mise était simple, sans être misérable, malgré la couche épaisse de poussière blanche qu'une longue marche avait accumulée sur leurs vêtements et leurs chaussures, et qui leur prêtait à cette heure un aspect de pauvreté assez désobligeant. L'homme était bien bâti. Dans son visage ferme et hâlé, l'angle facial était si peu ouvert que son profil s'accusait presque en angle droit. Il portait une courte veste de velours brun, à côtes, plus neuve que les autres parties de son équipement. Gilet de futaine à boutons de corne blanche, culotte de même étoffe, jambière en cuir tanné, chapeau recouvert de toile vernie noire. Un panier de joncs, pendu à son épaule par une courroie, laissait passer par son orifice le manche d'un couteau à foin et un crochet à boteler. Son pas ferme et mesuré était celui de l'habile artisan des campagnes et différait fort de la démarche lourde et traînante des journaliers communs. Mais il y avait de plus dans sa façon de lever et de poser les pieds une manifestation d'indifférence froide et opiniâtre qui lui appartenait en propre et s'affirmait jusque dans les plis régulièrement creusés, à droite ou à gauche, aux grêtes épas, dans la futaine de sa culotte. Ce qu'il y avait de tout particulier dans l'allure de ces gens, ce qui aurait infailliblement signalé le couple à l'attention d'un voyageur de rencontre, si distrait fut-il, c'était leur parfait silence. Ils marchaient côte à côte dans une attitude qui pouvait donner de loin l'illusion de la causerie familière, enjouée et confiante de gens qui se sentent tout proches, mais à mieux regarder, on s'apercevait que l'homme lisait ou faisait semblant de lire un recueil de chansons, tenu non sans peine devant ses yeux par une main passée dans la courroie du panier. Était-ce marque de réel intérêt ou attitude feinte pour esquiver une conversation déplaisante? Nul autre que lui n'aurait pu le dire avec certitude, mais il restait obstinément taciturne et sa présence ne pouvait apporter à sa compagne aucun réconfort. Elle eût été virtuellement seule sur la route sans l'enfant qu'elle portait dans les bras. De temps en temps, le coude plié de l'homme effleurait son épaule, car elle se tenait aussi près de lui qu'elle pouvait le faire sans le toucher. Mais elle ne semblait pas plus disposée à prendre ce bras que lui à l'offrir, et loin d'exprimer sa surprise devant un silence méprisant, elle paraissait le tenir pour chose normale. Si une parole quelconque s'élevait parfois dans le petit groupe, c'était un mot de la femme à l'adresse de l'enfant, petite fille en robe courte et en chaussons de laine bleu tricotée, ou le murmure d'une réponse bégayante de la fillette. Le charme principal, l'unique charme peut-être du visage de la jeune femme, était sa mobilité. Quand elle baissait les yeux pour regarder l'enfant, elle devenait jolie et même belle, d'autant que les fauves rayons du couchant, en frappant alors obliquement ses traits, mettaient des transparences délicates sur ses paupières et ses narines et une flamme sur ses lèvres. Quand au contraire elle marchait dans l'ombre de la haie, tout à sa rêverie silencieuse, elle prenait l'expression passive et figée de ceux qui attendent tout du temps et du destin, tout, sauf un peu de justice. Le premier aspect était l'œuvre de la nature, le second, celui de la civilisation, sans doute. Que ces deux êtres fussent mari et femme, père et mère de la petite fille, on n'en pouvait guère douter. Il fallait de tels liens pour créer l'atmosphère de familiarité aigrie que le trio emportait avec lui comme un nimbe le long de la route. La femme tenait les yeux fixés devant elle, regardant sans gros intérêt un paysage qu'elle aurait vu, à cette époque de l'année, dans chacun des comtés d'Angleterre. La route, ni droite ni tortueuse, ni montueuse ni plate, était bordée de haies, d'arbustes et de plantes dont les feuilles passaient par le stade du vert noirâtre qui précède la fatale atteinte des jaunes moisis et rouillés. L'herbe des talus et les plus proches buissons de charmille se poudraient d'une poussière soulevée par les véhicules rapides, la même poussière qui, sur la route, assourdissait comme un tapis le bruit des pas, et ce détail contribuait, avec le silence obstiné des voyageurs, à rendre perceptible le moindre son de l'espace. Longtemps, il n'y en eut d'autre que la voix menue d'un oiseau qui chantait son éternelle chanson du soir, la même sans doute qu'on eût entendue à la même heure sur la même colline avec les mêmes trilles, les mêmes croches et les mêmes silences au soleil couchant de l'arrière-été depuis des siècles sans nombre. Mais à l'approche du village, on percevait une confuse rumeur de voix, un brouhaha lointain venu d'une petite hauteur cachée par un rideau de feuillage. Au moment où le couple commençait à distinguer les maisons de Weydon Priors, passa sur la route un sarcleur de navet dont la houe passée sur l'épaule soutenait un sac à provisions. Le lecteur leva vivement les yeux. « Y a-t-il du travail là-haut » demanda-t-il flegmatiquement, avec un geste vers le village. Et, croyant que le paysan n'avait pas compris, il précisa « Du travail dans le bottelage du foin ?» Le sarcleur de navet avait déjà hoché la tête. « Eh bien, mon garçon, faut pas être bien avisé pour venir chercher du travail dans ce genre-là à Weydon, à cette époque de l'année. Y a-t-il au moins une maison à louer, une petite chaumière neuve ou quelque chose comme cela ?» reprit l'autre. Mais le pessimiste se tenait sur la négative. « On se charge plutôt de démolir à Weydon. On a abattu 5 maisons l'année dernière, et 3 celles-ci, sans que leurs habitants aient seulement une hutte en branchage pour se loger. Voilà comment vont les choses à Weydon Priors. » Le bottelier, ainsi que le désignait son attirail, secoua la tête avec quelque dédain, puis, jetant les yeux sur le village, il poursuivit. « Il se passe quelque chose là-haut, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est le jour de la foire. Mais ce bruit-là n'est que le tapage fait pour extorquer l'argent des enfants et des nigauds. Les affaires sérieuses se concluent dans la matinée. Moi, j'ai travaillé toute la journée à portée de ce vacarme, mais je n'ai pas bougé. Ah non, je n'ai rien à y faire !» Le bottelier et sa femme se remirent en route, et, bientôt arrivés sur le champ de foire, ils virent les parcs et les enclos, où des centaines de chevaux et de moutons avaient été amenés le matin pour la vente. La plupart des bêtes étaient parties maintenant. Comme l'avait dit le sarcleur, on ne traitait plus d'affaires sérieuses. On vendait seulement aux enchères quelques bêtes dépréciées, dont on ne pouvait se défaire autrement, et qu'avaient refusées sans hésitation les gros acheteurs venus et repartis de bonne heure. La foule était cependant plus dense que dans la matinée, renforcée par le contingent des visiteurs oisifs, journaliers en congé, soldats en permission, boutiquiers de village, d'autres encore qui venaient d'arriver et se complaisaient au spectacle des panoramas, des étalages de jouets, des figures de cire, des montres boursouflées, des médecins philanthropes voyageant pour le bien public, des escamoteurs, des marchands de bimbeloterie, des diseurs de bonne aventure. Mais nos voyageurs ne s'attardaient guère à ces attractions. Ils cherchaient, parmi les nombreux établissements qui se pressaient sur le champ de foire, un endroit pour se restaurer. Deux tentes dressées non loin d'eux dans le poudroiement d'ocre d'un soleil expirant paraissaient également tentantes. L'une d'elles, faite d'une toile crème, toute neuve et couronnée de drapeaux rouges, vantait ses produits. Bonne bière de ménage, ale, cidre. La seconde, moins flambante, laissait passer à travers sa toile de fond un petit tuyau de poêle en fer et arborait cette enseigne au-dessus de la porte « À la renommée de la bonne fromentée ». L'homme évaluait dans son esprit les promesses des deux enseignes et penchait pour la première. « Non, non, l'autre !» protesta la femme. « J'aime bien la fromentée, et Elisabeth Jeanne aussi. Tu verras que cela te plaira, c'est nourrissant après une longue route dure. » « Je n'y ai jamais goûté, » fit le bottelier, qui se rendit pourtant aux raisons de sa compagne et pénétra avec elle dans la baraque. Une assez nombreuse compagnie s'y pressait devant les longues tables étroites disposées de chaque côté de la tente. Au fond, sur un poêle à charbon, pendait une vaste marmite à 3 pieds dont le bord poli laissait transparaître l'éclat du bronze. Une vieille sorcière d'une 50aine d'années présidait au festin. Un tablier blanc, qui devait conférer de l'honorabilité à toute la surface qu'il recouvrait, était presque assez large pour faire le tour de sa taille. Elle remuait avec lenteur le contenu du chaudron. On percevait d'un bout à l'autre de la tente le sourd raclement de la grosse cuillère, qui empêchait de brûler le mélange de blé en grain, de raisins secs de Smyrne et de Corinthe, et d'autres ingrédients encore dont se composait l'antique ripopée. Des vases contenant ces divers produits étaient rangés à côté de la vieille femme sur la nappe d'une table faite de planches et de tréteaux. Les jeunes gens commandèrent chacun un bol de la mixture fumante et s'assirent pour la savourer à loisir. Rien de mieux jusqu'ici, car la fromentée, comme l'avait dit la jeune femme, est chose fort nourrissante, et l'on ne trouverait pas d'aliments plus sérieux dans la ceinture des quatre mers bien que pour des gens non prévenus, les grains de blé gonflés comme des pépins de citron qui flottaient à la surface pussent avoir, de prime abord, un aspect peu engageant. Mais il y avait sous cette tente quelque chose que l'on ne voyait pas au premier moment et qu'un instinct de perversité fit bientôt découvrir au jeune homme. Après avoir goûté du bout des lèvres au contenu de son bol, il surveilla de côté la vieille femme et comprit bientôt son manège. Il cligna de l'œil, elle répondit d'un signe de tête et prit le bol qu'il lui tendait. Sortant alors en tapinois un flacon caché sous la table, elle mesura une partie de son contenu et le versa dans la potée. C'est du rhum qu'elle venait d'y ajouter ainsi. Avec d'égales précautions, l'homme lui fit passer son argent. Ainsi corsée, la mixture lui paraissait beaucoup plus appétissante qu'à l'état primitif. Sa femme l'observait avec une sourde inquiétude, mais il lui persuada de faire aussi assaisonner sa part, et elle laissa, non sans quelque méfiance, verser dans son bol une modeste ration de rhum. L'homme acheva sa bolée et en demanda une seconde. Avec le même mystère, il réclama une addition de rhum, plus copieuse que la première. L'effet de la liqueur ne manqua pas de se faire bientôt sentir dans son attitude, et la jeune femme comprit, avec tristesse, que toute l'énergie déployée pour éviter l'écueil de la buvette autorisée n'avait servi qu'à les précipiter dans le maelstrom du débit clandestin. L'enfant commençait à jaser avec impatience, et la femme insistait. « Michel, pense à notre gîte. Tu sais que nous aurons peut-être beaucoup de peine à trouver une chambre si nous ne partons pas bientôt. » Mais l'homme faisait la sourde oreille et ne prêtait nulle attention à ce pépiment d'oiseau. Il pérorait maintenant pour la compagnie. Les yeux noirs de la fillette s'ouvraient tout ronds, avec un long regard méditatif sur les chandelles que l'on venait d'allumer, puis leurs paupières tombèrent, s'ouvrirent de nouveau, se fermèrent définitivement. L'enfant dormait. La première ration avait procuré au jeune homme une béate sérénité. La seconde le fit jovial, la troisième ergoteur. Au quatrième bol, les traits de caractère indiqués par la forme de son visage, le pli ferme de ses lèvres et le feu de ses yeux sombres commençaient à s'affirmer. Il devenait arrogant, voire violent et querelleur. Comme il arrive en de telles circonstances, le ton de la conversation s'élevait. Elle roulait sur le triste destin des braves garçons perdus par de misérables femmes et surtout sur le sort de maints jeunes gens d'avenir frustrés, de tout espoir et de toute ambition, dépouillés de toute énergie par un mariage imprudent et prématuré. « C'est ce qui m'est arrivé, » expliquait le butler, dont l'accent d'amertume disait un ressentiment tout proche. « Comme un imbécile, je me suis marié à 18 ans, voilà le résultat. » Et le geste dont il désignait sa famille et lui-même exprimait toute la tristesse de sa destinée. Sa compagne paraissait faite à de telles sorties. Elle ne semblait pas les entendre et se contentait d'adresser à voix basse des paroles caressantes à la fillette qui se réveillait et s'endormait tour à tour. De temps en temps, pour délasser ses bras, la mère la posait à côté d'elle sur le banc où l'enfant était juste assez grande pour se tenir assise. L'homme poursuivait. « Je n'ai plus que 15 shillings en tout et pour tout. Ce qui ne m'empêche pas d'être un bon ouvrier dans ma partie. Je défie quiconque en Angleterre de m'en remontrer sur les choses du fourrage. Si j'étais libre, je vaudrais 1000 livres en me retirant des affaires. Mais on ne sait jamais les choses avant qu'il soit trop tard. » On entendait sur le champ de foire la voix du commissaire-priseur qui vendait ses vieux chevaux. « Allons, messieurs, le dernier lot. Qui veut de ce dernier lot pour une bouchée de pain ?» 40 shillings, nous disons ? Une bonne poulinière, pas de défaut, à peine plus de 5 ans, rien que le dos un peu creux et l'œil gauche que sa sœur lui a fait sauter d'une ruade en venant sur la route. Moi, je ne vois pas pourquoi un homme qui a une femme et qui n'en veut plus ne s'en débarrasserait pas comme ces bohémiens-là font de leurs chevaux, déclarait l'homme dans la tente. Pourquoi ne pas les mettre aux enchères et les vendre à ceux qui recherchent l'article, hein ? Moi, bon Dieu, je vends la mienne à l'instant si quelqu'un veut l'acheter. « Il y en a qui l'achèteraient bien, » répondirent quelques-uns des consommateurs, en regardant la jeune femme qui n'était pas dépourvue d'attrait. « C'est vrai, » approuva un fumeur, dont la veste brillait au col, aux coutures, aux coudes et aux omoplates, de ce luisant dû à des frictions répétées contre des surfaces crasseuses et que l'on apprécie plus sur un meuble que sur un vêtement. On pouvait juger à sa tournure qu'il avait dû être palefrenier ou cocher dans quelque grande famille du voisinage. « J'ai été élevé dans un milieu aussi distingué que quiconque, je puis le dire, » ajouta-t-il. « Et si je ne sais pas reconnaître la bonne forme, personne ne le sait. Eh bien, j'affirme que cette femme-là la possède jusqu'aux os. Jusqu'aux os, je vous dis. Autant qu'aucune femelle sur le champ de foire. Il n'y a qu'à faire un peu ressortir la chose. Et croisant les jambes, il remit sa pipe à sa bouche, en fixant sur un point de l'espace un regard profond. Les yeux du jeune homme s'ouvrirent tout ronds devant cet éloge inattendu de sa compagne. Un peu dégrisé, il parut douter un instant de la sagesse de son attitude à l'égard d'une personne douée de telles qualités. Mais bien vite retombé à sa conviction première, il reprit rudement. « Eh bien, profitez de l'occasion alors, j'accepte toutes les offres pour ce bijou de la création !» À ce moment, une hirondelle, une des dernières de la saison, entrée par un trou de la toile, se mit à voler çà et là par la tente, avec des crochets brusques au-dessus de la tête des assistants. Tous les yeux se levèrent pour la suivre. L'oiseau finit par trouver une issue, mais les buveurs distraits en oublièrent l'offre du bottleur, dont la question resta sans réponse. Cependant, l'homme qui avait assez de force de caractère, ou se montrait buveur assez intrépide pour paraître garder encore un peu de sang-froid, continuait à faire arroser de plus en plus généreusement sa fromentée. Un quart d'heure plus tard, il revenait à son idée, comme l'instrument qui reprend, dans une fantaisie musicale, le thème primitif. « Allons, j'attends. Qu'est-ce que vous dites de ma proposition? Cette femme-là ne me sert à rien. Qui est-ce qui en veut ?» L'état d'esprit de l'assistance avait subi une influence fâcheuse, et le renouvellement de cette offre souleva un rire appréciateur. D'une voix implorante et anxieuse, la femme suppliait. « Voyons, viens donc, la nuit tombe, et cette ineptie n'est pas admissible. Si tu ne viens pas, je vais partir sans toi. Viens !» Elle attendait toujours, mais le jeune homme ne bougeait pas, et 10 minutes plus tard, il interrompait les propos décousus des buveurs pour lancer. « J'ai posé une question et personne n'a répondu. N'y a-t-il pas, parmi vous de Pierre ou de Paul, qui veuille de ma marchandise ?» L'attitude de la femme se modifia, et son visage prit la rigidité et la teinte terreuse que l'on a déjà observée. « Mike, Mike !» menaça-t-elle. « Voilà qui devient sérieux, trop sérieux même. « Quelqu'un veut-il l'acheter ?» répétait l'homme. « Je le souhaite, » fit-elle nettement. « Son maître actuel n'est pas du tout à son goût. « Ni toi au mien, nous sommes donc d'accord. « Vous entendez, messieurs ? Séparation par consentement mutuel. « Elle prendra l'enfant si elle veut pour aller de son côté. « Moi, j'emporte mes outils et j'irai du mien. « C'est net comme parole d'évangile. « Allons, Suzanne, lève-toi un peu qu'on te voit. « N'en fais rien, ma fille !» conseilla une florissante matrone, marchande de lacets de corsets, dont les amples jupons s'étalaient sur le banc à côté de la jeune femme. « Ce brave garçon ne sait plus ce qu'il dit. » Mais l'autre se leva. « On demande un commissaire priseur !» cria le botteleur. « Moi ?» répondit une voix humide. C'était un petit homme au nez en boule de cuivre, aux yeux en boutonnière. « Qui veut faire une offre pour cette dame ?» La malheureuse regardait à ses pieds comme si elle avait dû tendre sa volonté en un suprême effort, pour rester à sa place. « 5 shillings !» lança une voix qui souleva un rire général. « Pas d'insulte !» protesta le mari. « Quelqu'un en veut-il pour une guinée ?» Il n'y eut pas de réponse, et la marchande de lacets intervint. « Soyons donc convenables, mon garçon, pour l'amour de Dieu ! Ah, la pauvre fille ! Quelle brute elle a épousée ! Sur mon salut, la table et le couvert sont chers quand on les paye à ce prix-là » « Allons, le commissaire, élevez l'enchère !» ordonna le botteleur. « 2 guinées !» cria l'homme, mais personne ne répondit. « Si on ne la prend pas d'ici 10 secondes, à ce prix-là, il faudra donner davantage, » avertit le mari. « Très bien. Allons, 1 guinée de plus !»« 3 guinées ! Y a-t-il preneur à 3 guinées ?» fit l'homme à la voix mouillée. « Pas d'amateur !» s'étonna le mari. « Seigneur, elle m'a coûté 50 fois cette somme-là. Si elle m'a coûté 1 sou, allons plus haut !»« 4 guinées !» cria le commissaire priseur. « Eh bien, écoutez, je ne la cède pas à moins de 5 guinées, » jura le jeune homme, avec un coup de poing sur la table qui fit trembler toute la vaisselle. « Je la vends 5 guinées à tout homme qui me donne l'argent et qui la traite bien. Il l'aura pour toujours et n'entendra plus jamais parler de moi. Mais je ne la laisse pas partir à moins. Allons, 5 guinées, et elle est à vous. Cela te va, Suzanne ?» Elle inclina la tête avec une indifférence parfaite. « 5 guinées !» fit le commissaire, « ou nous retirons la dame. Y a-t-il acheteur ? Pour la dernière fois, oui ou non ?»« Oui !» fit une voix ferme, venue de la porte. Tous les yeux se tournèrent vers l'ouverture triangulaire qui servait d'entrée à la tente et où, depuis quelques minutes, se tenait un marin survenu au milieu de l'inattention générale. Un silence de mort accueillit son intervention.
« Vous dites que vous la prenez ?» demanda le mari en le regardant en face.
« Je le dis, » affirma le nouveau venu.
« Dire et payer font deux. Où est votre argent ?»
Le marin eut une seconde d'hésitation, regarda de nouveau la femme, puis, entrant dans la tente, déplia 5 morceaux de papier froissé et les jeta sur la nappe. C'étaient 5 billets de la Banque d'Angleterre. Sur chacun des billets, il déposa 1 shilling, les faisant sonner un à un. 1, 2, 3, 4, 5. La vue des espèces réelles, dont le dépôt sanctionnait un marché considéré jusque-là comme assez problématique, produisit un gros effet sur les assistants. Leurs yeux ne pouvaient plus se détacher du visage des acteurs de la scène ou des billets que les shillings empêchaient de s'envoler. Jusque-là, nul n'aurait osé affirmer que l'homme, en dépit de ses offres pressantes, fût réellement sérieux. À vrai dire, les spectateurs n'avaient vu dans toute l'histoire qu'un accès d'ironie joviale poussé à l'extrême et jugeaient qu'un chômage forcé inspirait aux jeunes paysans une humeur ombrageuse contre le monde, la société et sa propre famille. Mais la vue de l'argent posé sur la table enlevait à la scène toute apparence de frivolité. On aurait dit qu'un jour lugubre envahissait la tente et y modifiait l'aspect de toute chose. L'hilarité fit place à une attention profonde. Les assistants écoutaient bouche bée. « Maintenant !» fit la femme, dont la voix basse et sèche sonna dans le silence. « Maintenant, avant de faire un pas de plus, écoute-moi, Michel. Si tu touches à cet argent, je pars avec cet homme et j'emmène ma fille. Fais attention, ce n'est plus une plaisanterie. »
« Une plaisanterie ? Bien sûr que ce n'est pas une plaisanterie !» s'écria le mari exaspéré par une telle supposition.
« Je prends l'argent. Le marin te prend. C'est bien simple. Cela s'est déjà fait autre part. Pourquoi cela ne se ferait-il pas ici ?»
« Il est bien entendu que la jeune femme est consentante ?» intervint doucement le marin. « Pour rien au monde, je ne voudrais lui faire de peine. »
« Moi non plus, ma foi !» rétorqua le jeune homme. « Mais elle est consentante, pourvu qu'on lui fallait s'emmener la petite. »«
Elle me l'a encore dit l'autre jour, quand je lui en ai parlé. »«
Vous le jurez ?» demanda le marin à la femme.
« Je le jure, » répondit-elle, en regardant le visage de son mari, où ne se lisait nulle trace de repentir.
« Parfait, on lui donne la petite, et le marché est conclu !» déclara le bouteleur.
Il prit les billets du marin, les plia sans hésiter, et les mit délibérément, avec les pièces d'argent, dans une poche profonde. Le marin regarda la femme et sourit. « Allons, en route » fit-il gaiement. « La petite aussi, plus on est de fous, plus on rit. » La jeune femme lui jeta un regard profond et hésita une seconde. Puis, sans ajouter un mot, et baissant les yeux, elle prit l'enfant dans ses bras et suivit l'homme vers la porte. Mais, arrivée sur le seuil, elle se retourna, arracha son anneau de mariage et le lança à travers la baraque au visage du butler.
« Michel, fit-elle, j'ai vécu 2 ans avec toi, et de toi je n'ai eu que de mauvaises paroles. Maintenant je ne suis plus à toi, je vais tenter la chance ailleurs, cela vaudra mieux pour moi et pour l'enfant. Adieu !»
Et s'appuyant de la main droite au bras du marin, elle campa la fillette sur son bras gauche et sortit de la tente en sanglotant amèrement. Un air d'affliction stupide se fit jour sur les traits du jeune homme, comme s'il n'avait en définitive guère anticipé un tel événement. Il y eut des rires dans l'assemblée.
« Elle est partie ? » demanda-t-il.
« Ma foi, oui, et bien partie, » firent des voix près de la porte. Le bouteleur se leva et se dirigea vers le seuil avec la démarche prudente de l'homme conscient de son ivresse. Quelques buveurs le suivirent pour sonder avec lui le crépuscule. Sous leurs yeux s'affirmait le contraste entre l'opiniâtre méchanceté des hommes et la douceur pacifique des êtres inférieurs. À la porte de la tente, où venait de se jouer une scène de brutalité, un groupe de chevaux croisait leurs coups et se frottaient doucement l'un contre l'autre en attendant patiemment leur harnais pour rentrer à l'écurie. En dehors du champ de foire, tout était paisible dans les vallées et dans les bois. Le soleil venait de disparaître, et les nuages roses du couchant, qui paraissaient devoir durer toujours, changeaient pourtant de minute en minute. On eût cru, à regarder le ciel, voir du fond d'une salle obscure un décor grandiose, et à contempler ce spectacle au sortir de la tente, on eût éprouvé un instinctif désir de renier l'homme qui souillait un univers bienveillant
si l'on ne se fût pas souvenu que rien n'est assuré sur la terre et que dans ce ciel paisible, un tumulte destructeur pouvait se déchaîner tandis que l'humanité dormirait d'un innocent sommeil. « Où reste-t-il, ce marin-là ? » demanda l'un des assistants, après avoir en vain fouillé les alentours du regard. « Dieu le sait, répondit l'habitué du grand monde, cela doit être un étranger dans ces parages. » « Il était entré depuis 5 minutes, expliqua la marchande de fromenté, qui, les mains sur les hanches, avait rejoint le groupe. Il est ressorti, puis a rejeté un nouveau coup d'œil. Il ne m'a pas laissé un sou. « Bien fait pour le mari !» s'écria la marchande de lacets. « Une gentille femme, bien convenable comme celle-là. Qu'est-ce qu'un mari peut demander de mieux ? Je la félicite de sa crânerie. J'aurais fait comme elle si mon mari s'était conduit comme cela avec moi. » Dieu me damne si je ne l'aurais pas fait. Je serais partie, et il aurait pu m'appeler et me rappeler jusqu'à ce que le bec lui brûle. Je ne serais pas revenue jusqu'au jour de la grande trompette, moi. En tout cas, la femme va être mieux lotie, fit un des buveurs d'un ton sentencieux. Ces marins-là, ça sait abriter les brebis tondues, et celui-là paraît avoir pas mal d'argent. La pauvre fille ne devait pas y être trop habituée depuis quelque temps. Oh, écoutez, je ne vais pas lui courir après, fit le botteleur, en regagnant sa place d'un air bourru. « Qu'elle s'en aille. S'il lui prend des lubies de ce genre, c'est à elle d'en souffrir. Seulement, elle n'avait pas le droit d'emmener la petite. C'est ma fille, et si la chose était à refaire, je ne la lui donnerais pas. » La tente se vidait. L'heure tardive, ou peut-être le sentiment d'avoir encouragé par leur présence un acte indéfendable, dispersait les consommateurs. Le botteleur étala ses coudes sur la table, laissa tomber son visage sur ses bras, et se mit bientôt à ronfler. La débitante, jugeant l'heure venue de fermer sa boutique pour la nuit, rangea dans sa charrette les flacons de rhum, le lait, le blé, les raisins restés sur la table. Elle s'approcha alors du dormeur et le secoua sans réussir à l'éveiller. Comme la tente devait rester dressée pendant 2 ou 3 jours de fête encore, elle se décida à laisser dormir sur son banc, avec son panier d'outils près de lui, l'homme qui n'était évidemment pas un vagabond. Elle éteignit la dernière chandelle, baissa le pan de toile, grimpa dans sa charrette, et s'éloigna.